cette conférence sur l'islam et démocratie. Pourquoi, si vous voulez? Parce que personnellement, je suis né dans un pays musulman, là, qui est la Tunisie. J'ai été élevé jusqu'à l'âge du baccalauréat en Tunisie. Mon épouse également, d'ailleurs. Et il s'est trouvé que par ma carrière, j'ai eu l'occasion de travailler dans beaucoup de pays musulmans tout au cours de ma vie. Et arrivé à la retraite, je me rends compte que mes concitoyens ont une connaissance qui me semble un peu limitée de l'islam. Et j'ai eu envie moi-même, d'ailleurs, d'approfondir beaucoup ces questions-là et d'essayer de donner un petit peu d'informations autour de moi sur l'islam, ce que c'est, les problèmes que ça peut poser, parce que, comme vous le savez, les communautés musulmanes se développent énormément actuellement en Europe. Et j'avais donc sorti un premier ouvrage il y a 3 ans, et que j'avais appelé « Le face-à-face islam-chrétienté, quel destin pour l'Europe ?» en invitant les lecteurs à faire une réflexion sur l'horizon 2050, en prenant le problème sous l'éclairage civilisation. Moi, j'aime bien attaquer les problèmes par l'éclairage civilisation. C'est extrêmement important. Les musulmans appartiennent à une civilisation qui est différente de la nôtre. Ne portons pas de jugement pour savoir si la nôtre est supérieure à la leur. Au 19e siècle, on disait qu'elle était supérieure, mais aujourd'hui, on n'ose plus dire ça. Donc, toutes les civilisations sont égales. Mais ce sont des civilisations qui sont différentes. Et quelqu'un qui est d'une civilisation différente à la nôtre n'a peut-être pas forcément envie de s'intégrer à notre civilisation s'il considère que cette civilisation a de la valeur. Voilà, donc sur l'islam et démocratie, c'est parce que j'ai trouvé qu'il y a très peu d'ouvrages, honnêtement, qui me paraissent véritablement bien faits sur ce problème. Et je suis stupéfait par le fait que... autour de moi, énormément de gens, d'hommes politiques en particulier, posent la question de savoir, au fond, est-ce que l'islam est compatible avec la démocratie ou pas. Vous savez que, par exemple, le Premier ministre turc, Recep Erdogan, quand il est allé en Tunisie il y a quelques jours, a dit que l'islam et la démocratie étaient tout à fait compatibles. Alors, je me rends compte qu'il faut que je prenne quelques fiches. Pardon. Oui, donc Erdogan en Tunisie, qui disait « Islam et la démocratie peuvent coexister, ou du moins il a dit ne sont pas contradictoires ». Et il a déclaré « La Turquie en tant que pays musulman à 99% le fait très bien ». Voilà, donc vous savez qu'on n'arrête pas de se poser la question de savoir si islam et démocratie sont compatibles, et je vais essayer de vous faire une démonstration qui me paraît solide, vous direz ce que vous en pensez de votre côté, en prenant 3 approches différentes. Qui est-ce qui passe les slides là? Alors, avant d'aborder le sujet, si vous voulez, je vais... Allez. Voilà, donc ce sont des différents ouvrages qui traitent de ce problème de la démocratie et de l'islam. Je dois dire que la plupart des ouvrages qui existent sont des ouvrages faits par des musulmans qui évidemment tournent autour du pot et essayent de nous démontrer que les deux sont compatibles, ou bien des auteurs occidentaux qui finalement sont convertis à l'islam sans que ça ne soit indiqué en quatrième de couverture. Voilà, donc j'essaye, si vous voulez, d'essayer d'apporter ma pierre à ce problème. Alors, reste sur la précédente. Ah bon. Oui, simplement un petit flash d'abord sur la démocratie. Je ne vais pas vous faire un cours sur la démocratie. Rappelez simplement qu'il s'agit, quand on parle de démocratie, du gouvernement du peuple par le peuple, et certains hommes politiques en rajoutaient pour le peuple. Les valeurs qui sont prônées en démocratie, c'est liberté, égalité, tolérance, éventuellement fraternité, reste sur la précédente. La philosophie qui est sous-jacente, c'est l'inaliénable vocation des hommes à prendre leur destin en main. C'est-à-dire que nous allons beaucoup centrer notre réflexion sur ce problème-là. Marcel Gaucher, qui est un philosophe que j'aime bien, nous dit, avec la démocratie, il y a eu le passage d'une société hétéronome à une société autonome. C'est-à-dire qu'une société hétéronome, c'est une société où les lois sont dictées de l'extérieur, par Dieu ou par un roi de droit divin. Et une société autonome, c'est une société où ce sont les hommes qui décident eux-mêmes de s'emparer du pouvoir prométhéen, de faire eux-mêmes les lois auxquelles ils vont obéir. Voilà, donc, en démocratie, ce sont les hommes eux-mêmes qui décident des lois auxquelles ils vont obéir. C'est ce qu'on appelle une société autonome. Oui, vas-y. Alors, on va prendre, pour faire cette démonstration, trois approches différentes. Je vais prendre une approche théologique, on va regarder ce que nous dit le Coran, une approche anthropologique, on va prendre là l'éclairage que nous donne l'approche par le biais des civilisations. J'aime bien, si vous voulez, traiter les problèmes sociaux et politiques par le biais des civilisations, et une approche géopolitique, où on va essayer de voir ce que font les pays arabes et puis expliquer pourquoi deux pays musulmans, la Turquie et l'Indonésie, sont des pays qui vivent aujourd'hui en démocratie, et il faut comprendre pourquoi et comment cela s'est fait. Alors, première approche, tu as raison, le Coran. Le Coran, comme vous le savez, et il ne faut surtout pas oublier cela, si vous voulez, c'est la parole de Dieu. Mahomet nous a dit qu'il y avait dans le ciel un message divin de toute éternité. Ah oui, c'est bien ça, oui. Un message divin de toute éternité qui existe, que ce message divin a été révélé aux hommes par différents prophètes, Moïse par exemple et Jésus, parmi les grands prophètes cités par l'islam. Et ce qui s'est passé, c'est que ces prophètes, pour le Coran, pour les musulmans, ce sont des hommes. C'est-à-dire, ce sont des hommes qui ont été inspirés par Dieu. Tandis que Mahomet a eu, lui, l'honneur extraordinaire d'avoir directement la parole de Dieu. C'est-à-dire que Mahomet nous dit, les messages qui ont été délivrés précédemment sont des messages imparfaits. Le mien est le message parfait, puisque j'ai eu la parole de Dieu. Donc, vous, juifs, chrétiens, ralliez-vous à mon message, c'est le même message. Mais vous avez eu des messages imparfaits, moi j'ai le message parfait. Donc, pour les musulmans, c'est ce qu'on appelle la révélation. Pour les musulmans, le Coran est incréé. Incréé, si vous voulez. Ça, c'est fondamental. Si c'était un homme qui simplement été inspiré, il aurait été créé. Donc là, c'est la parole de Dieu, donc il est incréé. Et c'est ça qui piège énormément les musulmans, parce que dans la mesure où c'est la parole de Dieu, ben on ne peut pas y déroger. On ne peut pas l'interpréter. Alors, islam, c'est quoi? Ça veut dire obéissance à Dieu et à son prophète, soumission. Que nous dit le Coran? Vous savez que Mahomet a eu deux périodes dans sa vie. Il y a eu la période de la Mecque et la période ensuite de Médine. Toute la période de la Mecque, c'est une période au fond très spirituelle. La période de Médine, il a émigré donc de la Mecque à Médine, il est devenu en fait chef d'État à Médine. Et en tant que responsable de cet État, il a eu des sourates qui sont descendues du ciel et qui lui ont dit comment la société des hommes doit être organisée. Et toutes ces sourates, si vous voulez, sont très précises sur la façon dont la société des hommes doit être organisée. Dieu lui a dit que les hommes sont extrêmement imparfaits, qu'il fallait que ce soit lui quand même qui dise aux hommes comment ils doivent s'organiser. On ne va pas laisser les hommes s'organiser tout seuls. Bon, l'islam nous dit que la société doit être normalement dirigée par un croyant qui appliquera évidemment les lois qui ont été dictées par Dieu. Dans une société musulmane idéale, tous les individus sont croyants. Tous les membres de la société doivent être des croyants. Et il n'y a pas de liberté de conscience, c'est-à-dire on n'a pas la liberté de ne pas croire. Donc dans une société musulmane, vous allez avoir les musulmans qui sont évidemment des croyants et qui respectent la parole de Dieu, et vous allez avoir les gens qui ont eu les révélations précédentes, c'est-à-dire les juifs et les chrétiens, qui ont eu des messages imparfaits, qui veulent s'accrocher à ces messages imparfaits, qui ne veulent pas en venir au message de Mahomet. Donc on les admet parce qu'ils ont la vertu de croire en Dieu, c'est déjà remarquable, mais on va les considérer comme des citoyens de second rang, ce qu'on appelle dans l'islam des dhimmi. Et donc dans l'islam, on n'admet pas des gens qui n'ont pas la croyance en Dieu. Ceux-là, on les combat et on les exécute, même à la limite. Hein. Donc il n'y a pas de liberté de conscience. Vous ne pouvez pas ne pas croire en Dieu. Et si vous croyez en Dieu, vous ne pouvez pas tout d'un coup renoncer, être un apostat, renoncer à cette croyance. Là, vous êtes absolument condamné à mort. Que nous dit l'islam pour l'organisation de la société? Il nous dit qu'il y a inégalité entre l'homme et la femme. Je crois que là, si vous voulez, il faut que je vous lise deux ou trois versets du Coran qui sont quand même intéressants. Sourate 434, par exemple. Les hommes ont autorité sur les femmes à cause des qualités par lesquelles Dieu les a élevées au-dessus d'elles. Sourate 223. Elles sont votre champ de labour. Allez à votre champ comme vous l'entendez. Bon, en matière d'héritage, si vous voulez, les règles sont précises. Un homme et une femme n'héritent pas de la même façon. Les femmes héritent deux fois moins que les hommes. En matière de témoignage en justice, il faut deux témoignages de femmes pour contrebalancer le témoignage d'un homme. Donc il y a inégalité structurellement dans l'islam entre hommes et femmes. La façon de répudier une femme quand on est marié, etc. Donc inégalité fondamentale homme-femme. Ça vous le savez. Il y a inégalité entre musulmans et dhimmi. Dhimmi, c'est-à-dire les juifs et les chrétiens. Ceux qui croient en Dieu, mais qui n'y croient pas selon le message de Mahomet. Alors les dhimmi sont des gens, si vous voulez, qui sont considérés en islam. Ils ne sont pas persécutés, normalement. Dans les pays musulmans, on les persécute, on va trop loin. Ils sont, en principe, même protégés et astreints à des tas de contraintes. Ils n'ont pas le droit d'accéder à des postes importants dans la société. Ils n'ont pas le droit de monter à cheval. Ils ne peuvent monter que des ânes. Et encore faut-il qu'ils mettent les deux pieds du même côté. Et en fait, on les relègue, si vous voulez, dans des quartiers spéciaux. Et le soir, en principe, ils n'ont pas le droit de sortir dans les rues. L'esclavage est autorisé par l'islam. L'islam, donc, le Coran, il fait très très souvent allusion. Le musulman peut avoir 4 femmes, pas plus, et quelques esclaves. Comme concubine. Je vous signale que le Mahomet, comme il était quand même le prophète, Dieu lui a fait une petite faveur, il a autorisé à avoir 9 épouses. Je ne compte pas les concubines. Mais ça, c'est une petite faveur que Dieu lui a faite. Bon, l'adultère et l'homosexualité sont interdits, et il n'y a de fraternité uniquement entre musulmans. Citer quelque chose là. Bon, je ne retrouve pas cette citation. Enfin, c'est clair, si vous voulez. Il y a des sourates qui disent qu'il n'y a de fraternité qu'entre musulmans. Donc, pas de liberté de conscience, interdiction d'apostasier sous peine de mort. Le Coran fixe un certain nombre de lois en matière civile et pénale. C'est un code civil et un code pénal. La façon dont on se marie, la façon dont on répudie sa femme, la façon dont on hérite. Il y a la loi du talion également, c'est-à-dire qu'on a le droit de se venger de quelqu'un qui a tué un de vos proches. Il y a indiqué de façon précise comment on punit le vol, comment on punit l'adultère, comment on punit l'homosexualité. Donc vous voyez, tout ça, ce sont des règles fixées par Dieu à la société des hommes. Les jeux de hasard sont interdits, les intérêts sur prêt également. Il y a le problème de la viande de porc qui est interdite. La viande doit être abattue selon un certain rituel qu'on appelle la viande halal. Le port du voile pour les femmes est indiqué dans le Coran. Et puis il y a 5 obligations, dont les prières 5 fois par jour, le ramadan une fois par an, le pèlerinage à la Mecque. Et alors la fiscalité est différente pour les musulmans et les dhimmis. Les musulmans sont soumis à 2 impôts, la zakat et la sadaka, tandis que les dhimmis sont soumis à la jizya et au karaj. Ce qui s'est passé, si vous voulez, c'est que quand les musulmans, les cavaliers d'Allah, ont envahi tout l'Empire byzantin, ils ont soumis évidemment tous les qui étaient chrétiens, hein, depuis 3 siècles, ils ont soumis tous les chrétiens à la loi musulmane, et tous les chrétiens donc se sont trouvés au rang de dhimmis, soumis à des impôts absolument épouvantables, et c'est comme ça qu'ils ont obtenu que tous ces chrétiens deviennent finalement musulmans. Ces chrétiens ont fini par renoncer à leur foi pour pouvoir être à l'aise dans la société. On peut le regretter, mais enfin c'est comme ça que ça s'est passé. Voilà, donc ce que nous dit le Coran, si vous voulez, pour être bref, mais enfin on voit que ce ne sont pas des notions démocratiques telles que nous les concevons dans nos sociétés. Prenons maintenant l'approche par l'éclairage civilisation. Civilisation, c'est un concept difficile, et je vous invite tous, si vous voulez, à y réfléchir d'une façon plus approfondie qu'on ne le fait habituellement. Les définitions de civilisation sont données par différents auteurs. La meilleure que j'ai trouvée personnellement, c'est celle de Rodolphe Stavenhagen, qui est un anthropologue ou un sociologue mexicain. Il nous dit, si vous voulez, je vous la cite, « C'est l'ensemble des traits distinctifs, spirituels et matériels, intellectuels et affectifs, qui caractérisent une société. Cela englobe en outre les arts et les lettres, les modes de vie, les façons de vivre ensemble, les systèmes de valeurs, les traditions et les croyances. Un autre philosophe, Oswald Spencer, nous dit « Une civilisation, c'est aussi une façon de penser. » Donc, chaque civilisation a ses valeurs, elle a sa façon de penser, sa façon de voir les rapports entre les hommes. Quand on aborde les problèmes de civilisation, il faut avoir en tête les concepts suivants. Premier concept, c'est qu'à la base de chaque civilisation, il y a toujours une religion. Tous les anthropologues, si vous voulez, sont d'accord là-dessus. Chaque civilisation suit, comme les produits en marketing, 4 phases de vie, naissance, développement, maturité, déclin. Un troisième concept, c'est qu'à l'intérieur de chaque civilisation, il y a des évolutions internes qui se produisent. Et là, on a affaire à 2 écoles différentes. Certains anthropologues nous disent qu'il y a convergence dans les évolutions, d'autres nous disent qu'il n'y a pas de convergence. Alors, le plus fameux qui nous dit qu'il y a convergence, c'est l'américain Francis Fukuyama, dans La fin de l'histoire et le dernier homme, je crois, un bouquin qui a eu énormément de succès. Fukuyama nous dit qu'avec le développement de l'instruction, avec la raison, toutes les sociétés finissent par aboutir à un système d'organisation que nous appelons la démocratie. D'après lui, toutes les civilisations du monde, il y en a 5 ou 7 selon les auteurs actuellement, vont dans leur évolution déboucher sur cette formule d'organisation de la société qui est la démocratie. D'autres anthropologues, dont Claude Lévi-Strauss et dont Samuel Huntington, le disent non, il n'y a pas convergence, chaque civilisation va suivre sa propre voie d'évolution, et Huntington nous dit on peut très bien se moderniser sans s'occidentaliser. Alors, je ne sais pas si vous voulez vous convertir à l'une ou l'autre école, si vous voulez, mais il faut savoir que les 2 écoles existent. Alors, essayons d'appliquer ces principes à nos 2 civilisations. La civilisation occidentale, elle a comme fondement, au point de vue religion, le christianisme. C'est Jésus qui a apporté au monde l'idée de l'égalité des hommes. dans l'Empire romain, si vous voulez, les gens n'étaient pas égaux, et quand les chrétiens se sont répandus dans l'Empire romain, ça a fait une véritable révolution. Donc l'égalité a été apportée par le christianisme, plus la charité. Bon, pour ce qui est des phases de vie, notre civilisation occidentale s'articule en deux pôles différents. Il y a le pôle de l'Amérique du Nord qui, lui, est encore en développement, phase 2. Notre pôle européen qui a malheureusement avancé maintenant sa phase de déclin. Il a connu sa phase de maturité au 19e siècle. Et puis, depuis la moitié, surtout la fin de l'époque coloniale, on est dans la phase de déclin. Et ce qui s'est passé dans l'évolution de cette civilisation occidentale, c'est que pendant des siècles et des siècles, l'Église a coopéré, a été un peu fondue avec le pouvoir politique, ce qui n'était pas d'ailleurs quelque chose qui était indiqué par le Christ, hein, et qu'il y a eu une première révolte, si je peux dire, au temps de Luther avec le protestantisme, qui a réagi contre l'autorité papale, et ensuite, au XVIIIe siècle, avec le siècle des Lumières, une révolte contre le pouvoir royal et contre le pouvoir de l'Église et le triomphe de la raison. On a mis la raison à la place de Dieu et la morale à la place de la religion. Et au XVIIIe siècle, donc, la religion a été reléguée dans la sphère particulière des individus. C'est-à-dire, on a dit aux individus, vos histoires de religion, vous les mettez dans votre sphère particulière, ça n'a pas du tout à interférer avec les règles d'organisation de notre société. Et dans une société où il y a des gens qui ont des religions différentes, on comprend très bien, si vous voulez, qu'on demande à chacun de reléguer ses croyances religieuses dans sa sphère personnelle, et que la société des hommes doit être organisée par les hommes, indépendamment des règles en référence à une religion. Donc, avec cette révolution qui se fait au siècle des Lumières, on a débouché sur la démocratie. C'est-à-dire que ce sont les hommes eux-mêmes qui définissent les lois auxquelles ils vont obéir. Il y a donc eu, ce que je disais initialement, passage d'une société hétéronome, structurée par la religion, à une société autonome qui se donne sa propre loi et se propose l'autogouvernement pour idéal. Je cite la Marcel Gaucher, hein. Donc vous voyez, passage d'une société hétéronome à une société autonome. Vas-y. Civilisation musulmane, ben, la religion qui est à la base, évidemment, c'est l'islam, elle est dans une phase de vie qui est encore une phase de développement. Ils sont en pleine croissance encore sur le plan démographique et ils ont des leviers d'expansion, si vous voulez, que nous n'avons plus. Mais ce qui s'est passé dans leur évolution interne, c'est qu'il n'y a pas eu, jusqu'à présent, de sortie de religion. Il faut savoir qu'il y a eu une tentative avortée au 9e et 10e siècle avec ce qu'on appelait les butazilites. C'est-à-dire que les butazilites étaient des gens qui avaient découvert les philosophes grecs, qui avaient essayé d'introduire la raison dans le Coran, dans l'islam, et qui en étaient arrivés même à considérer que le Coran n'était pas incréé, mais créé. Et cette théorie, cette vision, si vous voulez, de la religion qui était celle des mutazilites, a été la doctrine officielle sous trois califats successifs. Et ensuite, si vous voulez, les religieux, les savants religieux musulmans, Ghazali en particulier, ont obtenu que l'on en revienne à un respect intégral des textes et une lecture littérale du Coran. Et donc le courant mutazilite a été arrêté, et tous les historiens nous disent qu'à partir de là, l'islam s'est fermé, et que depuis lors, on vit sur un islam qui est fermé, qui n'a plus réouvert, comme voulaient l'ouvrir les mutazilites. Donc la civilisation musulmane est une civilisation où les sociétés sont hétéronomes, c'est-à-dire que les lois sont les lois dictées par Dieu aux hommes. Donc, chacune des civilisations a ses propres vues, ses propres valeurs, ses propres façons de voir les rapports entre les hommes, et il ne serait pas étonnant, donc, de constater que nous, civilisations occidentales qui avons fait une sortie de religion au XVIIIe siècle, nous soyons dans une forme d'organisation de la société qui n'est pas celle que les musulmans, veulent avoir du fait qu'ils n'ont pas eu suivi le même cheminement que nous, ils n'ont pas fait de sortie de religion. Donc ce ne serait pas étonnant, si vous voulez, que la civilisation occidentale et la civilisation musulmane aient deux formes d'organisation de la société des hommes qui ne soient pas les mêmes. Vouloir que notre civilisation occidentale impose aux autres civilisations sa formule d'organisation de la société, c'est quand même une espèce de colonialisme, si vous voulez. C'est-à-dire, c'est au fond impliqué que nous sommes en avance sur eux et que nous leur disons, voilà la solution que nous avons trouvée, donc vous allez l'appliquer. Il n'y a aucune raison, si vous voulez, dans le monde musulman, il y a énormément de réticence à appliquer la solution occidentale, qui est considérée comme une solution, une domination à nouveau de l'Occident qui veut imposer ses lois au monde entier. Donc il faut savoir, si vous voulez, que nous avons tendance à considérer que cette solution est la solution universelle. On a tendance, si vous voulez, à se regarder de nombril, à penser que nous sommes vraiment les maîtres du monde et que nous apportons la lumière au monde. D'autres civilisations ne sont pas d'accord avec nous. Donc, pour vérifier, si vous voulez, ce que je dis, sachez que la civilisation occidentale qui est la nôtre a fait ses déclarations des droits de l'homme. Il y a eu la déclaration américaine des droits de l'homme, si vous voulez, au moment de l'indépendance des 19 États américains. Il y a eu ensuite la déclaration française de 1789, et puis la fameuse déclaration universelle de l'ONU, des droits de l'homme, c'est pratiquement les mêmes, de 1948. Ça, ce sont les déclarations occidentales des droits de l'homme. Les musulmans, de leur côté, je ne sais pas si vous le savez, on ne le dit pas suffisamment, ils ont réagi, et ils ont dit non, nous on fait notre propre déclaration des droits de l'homme. Il y a eu les déclarations des droits de l'homme islamiques de Paris de 81, la déclaration de l'OCI de 90, la déclaration de la Ligue arabe de 94, toutes ces déclarations des droits de l'homme s'en réfèrent à la charia. Les droits de l'homme sont les droits que Dieu a fixés à l'homme, et il n'y en a pas d'autres. Donc, voyez, donc, si il est normal, si vous voulez, que nous, dans notre civilisation, nous avons proclamé les droits de l'homme en pensant qu'ils sont universels, et les musulmans, ils ont dit non, pas du tout, nous avons nos propres déclarations des droits de l'homme. C'est quelque chose qui n'est pas dit en général dans l'Occident, il me semble, hein, alors que c'est très important. Pourquoi ont-ils pris le soin de faire leur propre déclaration des droits de l'homme s'ils ne sont pas d'accord avec la nôtre? Voilà. Ça, c'est la deuxième approche. L'approche, si vous voulez, par l'éclairage des civilisations. Troisième approche, disons géopolitique. Essayons de voir ce qui se passe aujourd'hui dans les pays musulmans. Cette carte vous montre quels sont les pays dans le monde qui sont démocratiques. Vous voyez que les pays démocratiques sont en bleu, et si vous regardez du côté des pays musulmans, vous voyez qu'il n'y a pas grand-chose qui est en bleu. Vous avez la Turquie et vous avez l'Indonésie. Et puis il y a deux pays qui ne sont pas définis, je pense que c'est l'Afghanistan, et puis c'est, c'est l'Arabie. Donc vous voyez, cette carte montre qu'il n'y a pas beaucoup de pays musulmans qui sont démocratiques. Et je me réfère, si vous voulez, dans mon ouvrage, à des rapports des Nations Unies. C'est-à-dire, je n'ai pas voulu prendre le risque d'être tout seul à dire que les pays musulmans ne sont pas démocratiques. Je me suis tout de suite référé à des rapports des Nations Unies, ce qu'on appelle le PNUD, le Programme des Nations Unies pour le Développement. Depuis 2000, chaque année, le PNUD sort un rapport sur ce qu'on peut appeler, si vous voulez, ce qu'on appelle le développement humain, pour ne pas appeler ça la démocratie, mais ils font un diagnostic des pays, de tout l'ensemble des pays arabes. Et pour faire ces travaux, l'ONU, d'une façon extraordinaire, n'a choisi que des experts musulmans. Pour une fois, si vous voulez, on a pris comme référence, si vous voulez, uniquement le fait que vous êtes croyant musulman. De façon à ce que ce ne soit pas des occidentaux qui aient raconté des histoires sur les pays musulmans. Donc, le rapport du PNUD, par exemple, de 2006, nous dit que l'islam est un élément crucial du tissu culturel et spirituel des pays arabes. et ces rapports constatent que les élections ne sont pas démocratiques, que les libertés publiques sont par trop soumises à de fortes pressions, qu'il n'y a pas d'égalité homme-femme, qu'il y a méfiance à l'égard de la démocratie perçue comme un concept occidental. Donc ces rapports, le rapport du PNUD par exemple de 2006 nous dit aucun pays arabe ne se trouve dans un état satisfaisant en matière de développement humain, c'est-à-dire de démocratie. Ils nous disent que les réformes annoncées ne sont pas réalisées, que le statut des femmes reste amélioré. Et ce qu'ils recommandent en conclusion, c'est qu'il faut réformer ces sociétés. Et il dit, cela suppose une modernisation de l'exégèse religieuse et le recours à l'ijtihad. Alors, le recours à l'ijtihad, je vous ai parlé tout à l'heure des mutazilites. Les mutazilites, qui voulaient introduire la raison dans la lecture du Coran, faisaient une interprétation personnelle du Coran. C'est ce que les musulmans appellent l'ijtihad. Donc, vous voyez que les rapports du PNUD disent aux pays musulmans, il faut que vous fassiez de l'ijtihad, c'est-à-dire que vous réinterprétiez le Coran avec, au fond, la référence à la raison. Donc le fait, si vous voulez, que l'ONU dise aux pays musulmans, il faut que vous allez vous en sortir en développement humain, c'est-à-dire en démocratie, en faisant de l'ijtihad, aurait dû faire un bruissant extraordinaire dans le monde, si vous voulez. Que ce soit l'ONU qui dise aux pays musulmans, il faut que vous réformiez votre islam. Je recite encore le rapport du PNUD. La réouverture de l'apport de l'ijtihad, son encouragement et sa consolidation restent une exigence fondamentale si l'on veut que se produise le mariage créatif nécessaire à la société de liberté. Je suis stupéfait, si vous voulez, que les journalistes dans le monde occidental ne se soient pas emparés, si vous voulez, de ces conclusions. Vous savez que les Nations Unies, quand ils font des rapports, sont d'une prudence absolument extraordinaire. Ils trempent 50 fois leur stylo dans l'encrier avant d'écrire quelque chose. Le fait que les Nations Unies, si vous voulez, se soient permis de dire des choses comme ça sur les pays arabes est quelque chose d'extraordinaire. Ça n'a été perçu par personne dans l'Occident. Vraiment incroyable. Alors, il nous reste à expliquer pourquoi deux pays musulmans ont basculé au XXe siècle dans la démocratie, la Turquie et l'Indonésie. Il faut expliquer pourquoi. Prenons le cas de la Turquie d'abord. La Turquie, vous connaissez, j'espère, un petit peu les uns et les autres, l'histoire de cet homme absolument fabuleux qu'a été Mustafa Kemal. Un des hommes politiques de l'histoire humaine les plus importants de mon point de vue. Mustafa Kemal était un militaire. Il avait eu à son actif la victoire dans les Dardanelles pendant la guerre de 14, si vous voulez, sur les Français, sur les Anglais et les Australiens. Et ensuite, après la capitulation de la Turquie, suite à la fin de la Première Guerre mondiale, puisque la Turquie s'est alliée aux Allemands et aux Autrichiens, les Alliés ont laissé les Grecs occuper la Turquie. Mustafa Kemal a mobilisé toutes les forces qu'il pouvait encore mobiliser en Anatolie et il a flanqué les Grecs à la porte de la Turquie. Ça lui a donné une image et une notoriété extraordinaire et fort de cette notoriété, il a pu transformer la Turquie. Il faut savoir que Mustafa Kemal était un laïc, un athée probablement, et qu'il a dit le plus grand mal de l'islam. Il a accusé l'islam d'être à la source du déclin de l'Empire ottoman. Je vous cite là par exemple ce qu'il disait du prophète Mahomet. Depuis des siècles, les règles et les théories d'un vieux cheikh arabe et les interprétations abusives de générations de prêtres crasseux et ignares ont fixé à la Turquie tous les détails de la loi. L'islam, cette théologie absurde d'un bédouin immoral, est un cadavre putréfié qui empoisonne nos vies. Voilà ce que Mustafa Kemal pensait du prophète Mahomet. C'est quand même extraordinaire. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, Mustafa Kemal ? vainqueur des Dardanelles et aurait voulu de la gloire d'avoir libéré la Turquie des Grecs, il a réussi à abolir le sultanat, il a proclamé la République, il a aboli le califat, et il a fait adopter par son pays une nouvelle constitution en adoptant le code civil suisse, le code criminel français, le code commercial allemand, le code pénal italien. C'est-à-dire qu'il était extrêmement occidentalisé et il a infusé dans son pays, si vous voulez, toutes ces lois qui étaient occidentales pour occidentaliser au maximum la Turquie. On n'en est pas à une constituant comme ça va être le cas de la Tunisie où les gens eux-mêmes vont essayer d'élaborer les lois. Il leur a apporté, si vous voulez, les codes civils européens qui lui semblaient les plus efficients, si vous voulez, pour son pays. Alors, il a tout fait pour ce que on pourrait appeler, si vous voulez, encaserner l'islam. Je ne sais pas si vous connaissez le fameux livre de Benoît Méchain sur Mustapha Kemal, je vous engage fortement à le lire, tout à fait passionnant. Donc il a encaserné l'islam, il n'a pas pu éradiquer complètement l'islam de la Turquie, bien sûr. Ah, qu'est-ce qui se passe? C'est grave. Vas-y, ensuite. Donc il a supprimé les écoles religieuses coraniques, il a créé un secrétariat d'État rattaché au Premier ministre qui contrôle tout le personnel religieux et les mosquées, il a fonctionnalisé les imams, et il a contrôlé les prêches des imams. C'est d'ailleurs le cas, je crois, encore actuellement, c'est-à-dire que les prêches des imams sont élaborés par cet organisme politique et diffusés, si vous voulez, toutes les semaines dans les mosquées. Hein. Il a substitué les caractères latins aux caractères arabes, c'est-à-dire qu'il a changé l'écriture. Il a fait changer tous les noms de famille des gens. Il a substitué le dimanche au vendredi. Il leur a fait adopter les vêtements occidentaux et le chapeau occidental. Il leur a fait changer la façon de se dire bonjour dans la rue, c'est-à-dire qu'on se dit plus bonjour à la façon musulmane, mais en se serrant la main. Il n'y a pas un homme d'État, si vous voulez, qui a fait de telles transformations dans un pays. C'est quelque chose d'absolument fabuleux. Donc, la Tianette a entrepris de procéder. Et alors, ce qui s'est passé, c'est que donc, il a installé des instruments donc démocratiques dans son pays et il a essayé d'éradiquer l'islam au moins de le contrôler au maximum. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que après 60 ans, ou plus de 60 ans, si vous voulez, d'institutions démocratiques, les militaires jusqu'à présent ont tenu la barre du kémalisme. C'est grâce aux militaires que l'islam n'a pas repris le dessus en Turquie. Mais ces derniers mois, le Premier ministre est extrêmement malin, et du fait, si vous voulez, de l'éventualité de l'entrée de la Turquie dans l'Europe, les Européens, Bruxelles, a exigé que le pouvoir des militaires soit complètement éliminé. Donc, ils viennent d'éliminer complètement le pouvoir des militaires, qui, eux, tenaient la barre. On fait plusieurs révolutions pour barrer la route à l'islam. Et actuellement, ce qui se passe donc en Turquie, c'est qu'une commission, en arrière, si tu peux. Il y a une commission qui a été créée pour que, on essaye de réformer l'islam. C'est-à-dire qu'après 60 ans de vie démocratique, la Dianette pense. Réviser les hadiths. Les hadiths, si vous voulez, la loi musulmane, la charia, est fondée sur le Coran et sur les hadiths. Les hadiths, ce sont les faits et gestes du prophète qui ont été recueillis auprès de ses proches, des descendants de ses proches, etc. Ce sont les deux sources de la loi musulmane. Donc on peut éventuellement bricoler sur les hadiths, mais on ne peut pas toucher, si vous voulez, au message du Coran. Ça, c'est le message de Dieu. Donc ils sont en train d'essayer actuellement en Turquie de moderniser l'islam. Donc, je vous cite un des bons auteurs musulmans turcs là qui dit actuellement on est en train de refaçonner l'islam en Turquie. Deuxième pays musulman démocratique, l'Indonésie. 250 millions de musulmans. Alors, l'Indonésie, si vous voulez, est devenue une république au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. C'est Sukarno, si vous voulez, qui a réussi à éviter que les musulmans prennent le pouvoir. Il a été assez habile. Il a instauré ce qu'il appelait une démocratie dirigée fondée sur la pancasila. La pancasila, c'est une charte à laquelle l'Indonésie se réfère en permanence. Alors, les cinq éléments de cette charte, si vous voulez, seront la croyance en un Dieu unique, l'unité de la nation, l'humanitarisme, la démocratie consultative, la justice sociale. La pancasila est considéré comme le code génétique de l'Indonésie. Donc, jusqu'à présent, il y a eu donc Sukarno qui a fait la démocratie dirigée. Il y a eu ensuite un dictateur qui a été très très dur, qui est Suharto. Il y a eu Gusdur, il y a eu Megawati. Et actuellement, on en est à Susilo Bambang Yudhoyono, qui s'appelle SBY. Bon, donc cette Indonésie, pourquoi est-elle démocratique aujourd'hui? C'est parce que, et personne ne le dit, et personne ne le sait, c'est parce qu'ils sont sur un islam réformé. C'est un islam qui s'est installé sur un fond hindou-bouddhique et qui a été très influencé au XIXe siècle par un réformateur égyptien qui a eu une grande renommée en Indonésie. Et c'est un islam réformé. Alors certains spécialistes parlent d'un islam indigénisé. Mais j'ai trouvé des études, si vous voulez, de Hudson Institute aux États-Unis, qui nous expliquent d'une façon bien précise que c'est un islam réformé. Donc, l'Indonésie peut être démocratique parce qu'ils sont sur un islam réformé. Oui. Bon, voilà, donc ça, c'est un des conseillers, le conseiller du président d'un des partis de musulmans le plus important en Indonésie, l'ONU, nous dit nous adhérons à deux systèmes de valeurs différents, des valeurs islamiques et des valeurs indigènes. Donc actuellement l'Indonésie est constituée de la façon suivante, 65% de gens qui sont sur un islam réformé, 23% sur un islam traditionnel, quelques chrétiens, quelques hindouistes. Alors, ce qui se passe, c'est que ceux qui sont sur un islam réformé adhèrent complètement à la charte de la pancasila et défendent leur système de démocratie. Et les 20% qui sont sur un islam traditionnel luttent pour qu'on applique la charia. Et c'est eux qui progressent actuellement un petit peu. Il y a même une province de l'Indonésie qui est passée sous la loi de la charia il y a quelques années. Mais pour l'instant, ce sont les deux grands partis musulmans qui sont sur la pancasila qui dominent. Bon, une correspondante du Figaro, dans un article récent, disait « Le mieux-disant musulman gagne du terrain ». C'est la même chose, si vous voulez, en Turquie et en Indonésie. L'islam regagne un petit peu de terrain, si vous voulez, dans ces deux pays. Voilà, donc, si vous voulez, on a pris trois approches différentes, comme vous avez vu. La lecture du Coran, c'est quand même la base. L'approche civilisationnelle, qui nous dit, au fond, il peut très bien y avoir deux systèmes d'organisation de société qui sont différents, au fond, il ne faudrait pas s'en étonner. Et puis, cet examen, si vous voulez, géopolitique, c'est-à-dire, au fond, l'ensemble des pays musulmans ne sont pas actuellement dans des régimes démocratiques. Deux pays seulement le sont, l'un la Turquie, l'autre l'Indonésie. La Turquie parce qu'il y a eu Mustafa Kemal, ce n'est pas l'AKP aujourd'hui dont on parle beaucoup qui a fait l'Indonésie actuelle, c'est Mustafa Kemal. Personne n'en parle, si vous êtes étonné, dans les rubriques que je peux voir dans les grands journaux, on parle de l'AKP, comme si c'était l'AKP, si vous voulez, qui avait installé la démocratie en Turquie, non, c'est Mustafa Kemal. Et maintenant que les militaires, le pouvoir des militaires a été éradiqué, on ne sait pas très bien quelles sont les intentions de l'AKP. Puis l'Indonésie, c'est parce qu'ils sont sur un islam réformé. Donc, conclusion de ces approches, si vous voulez, c'est que l'islam reste sur des sociétés hétéronomes, l'Occident est passé à des sociétés autonomes, et il y a deux solutions pour les pays musulmans pour devenir démocratiques, c'est ou bien réformer leur islam par l'ijtihad, solution indonésienne, ou bien encaserner l'islam, solution turque. Ce qui se passe actuellement dans les pays qui font leur révolution, ce qu'on appelle le printemps arabe, c'est que je ne vois pas nulle part de pays où il y a un Mustafa Kemal capable de faire une mutation à l'islam, à son pays. Il y a eu en Tunisie Bourguiba, Habib Bourguiba. Alors Habib Bourguiba était un homme très occidentalisé, il avait fait ses études à la Sorbonne, il avait épousé une Française, il était avocat de profession, il a combattu pour l'indépendance de la Tunisie, il l'a obtenu et il a eu donc une gloire extraordinaire et les Tunisiens l'ont même nommé président à vie et l'ont appelé le combattant suprême. Habib Bourguiba a fait faire des avancées à l'islam dans son pays, mais il n'a pas du tout fait ce qu'a fait Mustafa Kemal. Il a été extrêmement prudent, il a louvoyé, il a simplement fait le statut personnel, c'est-à-dire porter la femme au même niveau que l'homme sur le plan des droits civils en Tunisie. Et par contre, il n'a pas touché au problème d'héritage. Et il a essayé de s'attaquer à un des cinq piliers de l'islam, qui est le ramadan, le jeûne. Pendant 3 ans, il a interdit le ramadan. Il s'est montré lui-même à la télévision en train de boire un jus d'orange pendant les heures de carême. Et il est obligé de céder, sous la pression des savants et musulmans et du peuple. Donc il s'est quand même attaqué à un des cinq piliers de l'islam. Tu sais, au fond, son idée, c'était quand même de réformer l'islam, de le faire évoluer. Et il disait qu'en tant que chef de l'État, d'un État musulman, il a le droit d'avoir sa propre lecture du Coran. Alors, voilà, donc le cas de la Tunisie mis entre parenthèses. Ce que je vous propose de retenir, si vous voulez, c'est que il ne s'agit pas d'avoir dans les pays uniquement des démocraties de façade, c'est-à-dire un parlement et des élections. Ça ne suffit pas pour qu'il y ait une démocratie. Il faut que l'ensemble de la population partage les mêmes valeurs. Et les valeurs qui sont les valeurs prônées en démocratie ne sont pas du tout les valeurs du Coran. Un des grands auteurs français en matière de démocratie, qui est Pierre Rosanvallon, qui nous dit « Il n'y a pas de démocratie sans formation d'un monde commun partageant de mêmes valeurs. » Et Francis Fukuyama, que je citais tout à l'heure dans « La fin de l'histoire et le dernier homme », nous dit « L'obstacle culturel à la démocratie, c'est un rapport avec la religion. » Voilà, j'ai terminé et j'espère que je n'ai pas été trop long.